Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogics, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogics offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Amin Ghasmi sur Nutri Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Santé 360. Après le docteur Stéphane Résimon, après Christian Boyer, eh bien nous avons un nouvel intervenant. Et ça, c'est vraiment la richesse de cette émission cette année. Et on est très heureux de l'accueillir. Je garde le suspense entier sur son identité. C'est Amin Ghasmi. Bonjour Amin.
Bonjour Fabrice et merci pour l'invitation.
Ah non, mais là on va vous retrouver tous les jeudis pour ces émissions passionnantes. On rappelle que vous êtes physiologique, nutritionniste et notamment président de la société francophone de nutrithérapie, nutrigénétique appliquée. Donc ouais, c'est encore une fois, je peux dire qu'on va avoir des conversations très très intéressantes et très riches. On est très fiers sur Nutri Radio de vous proposer ça. Et d'ailleurs, on remercie notre partenaire, le laboratoire Nutrilogique spécialisé dans les compléments alimentaires avec des formules et des synergies qui sont élaboré par des scientifiques, par des gens passionnés, mais aussi intéressés pour que voilà, on vous donne des produits efficaces. C'est ça aussi la bonne complémentation. Donc, comment allez-vous, mon cher? Attendez, bougez pas. Est-ce que vous m'entendez?
Très bien.
Ah, j'ai eu peur. Excusez-moi. C'est les conditions du direct. J'ai cru à un moment donné que votre micro avait disparu. Comment allez-vous, mon cher Amin?
Très bien, super. Ça se passe bien.
Bon, vous êtes équipé du micro comme Christian. Et on pense à Stéphane Résimon qui lui n'a jamais eu de micro avec lui. Bon, en tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir. On va aborder le sujet de l'émission dans un instant où on aura l'occasion d'évoquer la vitamine D. Vous m'avez dit hors antenne, oui, non, ouais, la vitamine D, moi, je peux en parler des heures. Vous voyez, ça, c'est ça, Nutri Radio. Il n'y a personne qui va vous dire dans un repas de famille, moi, la vitamine D, je peux en parler des heures. Eh bien, ici, on va vous en parler et vous allez voir que vous allez encore en découvrir que vous soyez professionnel de santé, de bien-être ou tout simplement un passionné de bien-être. Donc, on parle de ça dans un instant, mais je voulais revenir sur un événement que vous organisez au Maroc bientôt, parce que là, on va absolument y être avec Nutri Radio. Pouvez-vous nous parler 2 secondes de cet événement?
Exactement. Donc, c'est Fabrice, c'est la 4e édition du Congrès international des sciences de la nutrition, où on aborde la micronutrition, la médecine fonctionnelle, la médecine intégrative. Donc, la thématique sera sur les troubles hormonaux vus par la médecine fonctionnelle et la micronutrition, l'hormonologie, la santé féminine, la santé osseuse, la médecine anti-âge. Donc, il y aura des intervenants divers et variés qui viennent de différents horizons, tels que Dr Stéphane Résimon, Dr Moutan, Dr Madiné également, Christian Boyer et d'autres.
Mais attendez, vous avez réussi à sortir le Dr Mouton de sa Belgique natale, de sa Belgique, c'est-à-dire que lui, il ne sort jamais. Comment vous avez fait?
Eh bien, ça, c'est la magie de ce que je fais et de ce qu'on fait. Donc il peut y avoir aussi probablement, il a pas encore confirmé, mais probablement aussi Thierry Herzog. Voilà, donc il y en a d'autres, hein. Il faut se connecter sur icns.ma. Vous avez toutes les infos, programmes, tout ce qu'il faut pour s'inscrire, etc. C'est un congrès hybride, donc vous pouvez vous connecter en ligne et assister à tout le congrès en ligne. Vous pouvez aussi venir sur place, sur Casablanca. Il fera très beau d'ailleurs mois d'avril. Voilà, donc on vous attend. Toi aussi, Fabrice, tu es le bienvenu, comme je te disais.
Eh ben, on viendra et on fera une petite émission en direct de là-bas. Je pense que ça peut, on peut pas échapper à ça. En tout cas, on va parler de la vitamine D maintenant. Merci pour nous donner ces petites infos aussi très sympas sur ce congrès au Maroc, donc qui a lieu les 17 et 18 avril prochains. Donc, parlons de la vitamine D, parce que la vitamine D, on entend beaucoup de choses, ça a failli être classé comme perturbateur endocrinien, il y a une machinerie ici en France, mais aujourd'hui, on sait que C'est vraiment indispensable. Et pour apporter un éclairage à la fois rigoureux scientifiquement et accessible, ben on est content de vous avoir parce que on doit toujours en parler comme une simple vitamine ou la considérer comme une véritable hormone stéroïdienne.
C'est une hormone en fait, au sens propre, littéralement. Donc moi j'ai publié plus d'une centaine d'études diverses et variées sur la micronutrition, et dans une bonne partie de ces études-là, je parle tout le temps de vitamine D, que ce soit pour l'immunité, pour l'os, pour tout un tas de choses. Et donc la vitamine D, on l'appelle vitamine, mais en réalité c'est l'hormone D. On devrait l'appeler l'hormone D, puisqu'en réalité ce que l'on appelle vitamine D, qui est la forme qu'on appelle cholicalciférol, celle qu'on trouve dans l'alimentation, notamment dans le poisson et autres, celle qu'on trouve dans les compléments également, et celle qu'on synthétise dans la peau par photosynthèse sous l'action de l'effet des rayons UV de type B. Cette molécule-là, elle est inactive. C'est un précurseur qui va se convertir en deux réactions successives, on dit une double hydroxylation dans le foie et dans les reins, en calcitriol. Et c'est la calcitriol qui est cette fameuse hormone D, qui est la forme bioactive, on peut dire, de la vitamine D, qu'on pourrait aussi appeler hormone D, puisque ça agit comme une hormone. C'est une véritable hormone. Ça agit exactement de la même façon que, si on veut parler de métabolisme phosphocalcique, ce qui est le plus connu comme étant, on va dire, l'effet le plus connu de la vitamine D, comme la PTH, la parathormone, la calcitonine et la calcitriol. Ce sont les trois hormones qui régulent le métabolisme phosphocalcique, la calcémie, etc. Pas que l'os, mais tout le métabolisme phosphocalcique. Et puis, on a des effets aussi, ça c'est des effets endocriniens. On peut avoir aussi des effets endocriniens au niveau de la vitamine D, au niveau immunitaire. Et puis, il y a tout un tas d'effets aussi annexes qu'on appelle des effets paracrines ou autocrines, où on va avoir des effets de cette même vitamine D au niveau des tissus pour réguler notamment le cycle cellulaire, pour réguler les divisions cellulaires, la réparation tissulaire, la régénération tissulaire, la cancérogénèse. Toutes ces choses-là se régulent par la vitamine D, donc par l'hormone D. Donc c'est une véritable hormone. Il est impossible qu'on la classe comme perturbateur endocrinien.
Et pourtant, vous savez que c'est un sujet. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi la réglementation il y a un an ou deux, je crois. On a échappé belle.
Ouais, c'est impossible. Ça peut pas. Même si le débat est toujours sain dans une société moderne, le débat est toujours sain. Mais en fait, c'est impossible que ça soit le cas. Ça serait bien de s'orienter beaucoup plus vers des excipients un peu plus toxiques que ce qu'on dit, comme ce qui a été fait. D'ailleurs, c'est très bien. Le dioxyde de titane. Aussi, il y a l'ANSES qui vient de sortir un rapport qu'ils ont envoyé à l'autorité européenne, une commission européenne, pour notamment interdire le fluorure de sodium. Fluorure de sodium. Des dizaines d'années, on parle de la toxicité du fluorure de sodium. On dit non, c'est pas du tout toxique. C'est même bon pour les enfants. Ça prévient les caries, etc. Dans les dentifrices, dans les chewing-gums, dans les bonbons, etc. Et ben maintenant, on se rend compte que c'est toxique. Bon, ça serait bien de s'orienter vers ces excipients-là et ces molécules-là qui sont réellement toxique que de s'orienter vers la vitamine D, parce que bon, vitamine D, c'est impossible qu'on la classe comme telle dans le sens. Alors, ce qui serait probablement perturbateur endocrinien, c'est peut-être des formes, mais qui sont des formes qui n'existent plus maintenant. C'est des formes médicamenteuses. Il y a différentes formes quand on regarde un petit peu sur les études des revues de la littérature sur la vitamine D. Il y a plusieurs dizaines de formes différentes de vitamine D qui sont des dérivés de vitamine D qui sont jamais sorties sur le marché, sauf deux. Donc, ils sont très utiles d'ailleurs lorsqu'on les utilise dans leur contexte, dans leur indication. L'alpha-calcidol notamment, qui est une forme qui est orientée pour l'insuffisance rénale. Il y en a une autre aussi qui est hydroxylée en position 25, la 25 hydroxyvitamine D, qui n'existe pas d'ailleurs dans tous les pays, mais dans certains pays comme l'Espagne, par exemple. Ça, c'est une autre forme de vitamine D, mais ça, c'est des médicaments, c'est sous prescription. Donc, la vitamine D en tant que telle, on la trouve naturellement dans les aliments. Donc, c'est pas possible que ça soit considéré comme un perturbateur endocrinien. Alors, c'est impossible.
Alors, si on la trouve naturellement dans les aliments, pourquoi on pousse pour une complémentation, et d'ailleurs au-delà même de la complémentation, les médecins, quand vous allez les voir, la première chose qu'ils vous demandent normalement, tiens, vitamine D, est-ce que vous en prenez, et ils nous donnent un grand shoot de vitamine D.
Oui, mais c'est tout à fait normal, parce que dans les aliments, on n'a qu'une dizaine de pourcents de l'apport journalier recommandé. C'est-à-dire, c'est comparé à l'apport journalier recommandé, c'est la quantité de vitamine D qu'on devrait avoir tous les jours, qui est estimé, encore une fois, je contextualise ici, qui est estimé par les sociétés savantes et par les autorités de santé, mais qui, selon moi et selon beaucoup de médecins, de chercheurs, etc., et les études maintenant fusent de partout, est une quantité insuffisante. C'est ce fameux dosage là de 400 unités par jour là qui est très 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 bas. Si on considère que l'apport journalier recommandé, c'est l'exposition au soleil, donc ce qu'on synthétise dans la peau et ce qu'on obtient par les aliments ne constituent que 10%, 10 grand maximum, 15% de cet apport-là, et le reste, c'est l'exposition au soleil. Bon, l'exposition au soleil, maintenant, c'est très problématique, puisque dans des pays qui sont situés plus au nord, y a moins de soleil. Et puis en même temps, maintenant aujourd'hui, on a un besoin beaucoup plus important en vitamine D. On n'est plus sur les 400 unités. Tu sais, les 400 unités, ça te permet, quand tu t'exposes suffisamment au soleil, ça te permet d'avoir suffisamment de vitamine D pour pas augmenter ton risque fracturaire, pour avoir les quantités là de au niveau du dosage, quand on dose la 25-hydroxyvitamine D, qui est le marqueur sanguin sérique, on devrait être au-delà, en tout cas dans les normes classiques officielles, on devrait être au-delà de 30 nanogrammes par millilitre. Ça, c'est une limite qui a été fixée depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, en se basant sur le risque fracturaire. Le risque de fracture, on a constaté que le risque de fracture augmente lorsque on est en dessous de 30 nanogrammes par millilitre. Après, il y a une hétérogénéité dans les études. Ça, réellement, c'est entre 25 et 30 nanogrammes par millilitre et on a retenu la fourchette haute.
Alors, on va revenir sur les dosages parce que ça intéresse tout le monde, évidemment. Dans un tout petit instant, on marque une pause, hein, et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio. Reste avec nous.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
Santé 360, Amin Gasmi sur Nutri Radio.
Amin Gasmi sur Nutri Radio, votre rendez-vous avec cette émission Santé 360. Et c'est Amin Gasmi qui a pris le relais de Christian Boyer, qui lui-même avait pris le relais de Stéphane Résimon, que des intervenants de qualité avec une approche différente. Et on aime aussi varier les discours. On n'est pas dogmatique, nous, sur Nutri Radio. Tout le monde explique et partage ses compétences. Donc ça, c'est très bien. On parle de la vitamine D. Et je sais si elle est importante. Vous avez évacué d'un revers de la main bien explicatif et bien scientifique pourquoi ça peut pas être considéré comme un perturbateur endocrinien. On le savait un peu, mais parfois, on nous sort des choses qui sont surprenantes. Et on parlait aussi des dosages. Alors, rappelez-nous un peu, je crois qu'en France, le dosage conseillé, c'est 800 unités par jour, c'est ça?
Alors, 400 à 800. Okay. 800, c'est dans un contexte de grossesse, d'allaitement. Mmh. 400 unités, c'est le dosage AJR, rapport journalier recommandé classique, qu'on trouve d'ailleurs dans plusieurs pays. Et puis, on a des recommandations diverses et variées en fonction des pays, en fonction des autorités de santé, la FDA, la EFSA, l'ANSES, etc., sur ce qu'on appelle des apports maximum tolérables. Et ces apports maximum tolérables, c'est ce qui est jugé par ces autorités-là comme étant la quantité maximale qu'on pourrait recommander sans avoir une toxicité sur des durées moyennes, raisonnables de quelques semaines. Et ça va, cet apport maximum tolérable, ça va de 2000 à 4000 unités. Le 4000 unités, c'est le plus haut que donc va considérer la FDA, la Food and Drug Administration américaine. En Europe, on est sur, ça dépend des pays, mais on est sur entre 2000 et 3000 unités d'apport maximum tolérable. Maintenant, il est clair que ces recommandations-là sont des recommandations qui sont dépassées en réalité. Et là, j'aimerais faire un point particulièrement important, c'est qu'en fait, ce type de recommandation, il devrait s'orienter vers la masse de la population lorsqu'elles vont se traiter ou se supplémenter en vitamine D seules, comme ça, sans suivi par un professionnel de santé. Là, ça pourrait être pertinent. Ça pourrait être pertinent pour le grand public, pour un patient lambda qui décide de prendre comme ça de la vitamine D sans dosage, sans rien du tout, sans suivi, sans indication particulière, sans médecin, sans pro de la santé. À ce moment-là, ces recommandations-là, je parle des apports maximum tolérables à ne pas dépasser, pourraient être intéressantes dans ce contexte-là. Mais lorsqu'il s'agit de professionnels de santé, moi je pense que les professionnels de santé ne devraient pas prendre en compte ces recommandations-là, dans le sens où quand on regarde dans la plupart des études, pas les anciennes, parce que sur les anciennes études, oui, on a des dosages de 800 mg, on a des dosages de 1000, 2500 mg, mais les nouvelles études, les nouvelles données scientifiques suggèrent que ces dosages-là sont même inférieurs à ce qu'il faut être à ce qu'on devrait avoir comme apport journalier recommandé. Donc on devrait être plutôt aux alentours de 4000 5000 unités par jour lorsqu'il y a indication à cela. Encore une fois, je répète, lorsque le patient est suivi par un pro de la santé ou en tout cas un praticien qui est formé en médecine fonctionnelle, en santé fonctionnelle, en micronutrition, alors on peut aller vers des dosages plus élevés. 4000, 5000 unités, c'est un dosage moyen qui permet d'obtenir des taux sanguins qui sont raisonnables. Des taux sanguins raisonnables autour de 45, 50, 55 nanogrammes par millilitre. Et puis, si y a indication à cela, c'est maintenant aux praticiens de décider d'aller au-delà. Il y a dans beaucoup de cas nécessité à aller au-delà de ces dosages-là, notamment avec toutes les problématiques de mutation qu'il y a dans la voie de la vitamine D. Je ne sais pas si on aura le temps de discuter de ça.
Est-ce que vous avez dit les dynamiques de mutation?
Oui, les mutations, les différentes mutations qu'il y a dans la voie de la vitamine D. Parce que pour simplifier un peu, il y a la cholicalciférol, qui est cette vitamine D, comme je disais tout à l'heure, qu'on trouve dans les compléments, qu'on trouve dans l'alimentation, qu'on synthétise dans la peau, sous l'action des rayons UV. Ça, c'est la cholicalciférol. Elle n'est pas bioactive, elle doit être convertie. Donc on dit doublement hydroxylée dans le foie et dans le rein. Et cette hydroxylation se fait par deux enzymes. La 25-hydroxylase dans le foie, la 1-alpha-hydroxylase dans le rein. Et à l'issue de cette réaction, donc par la 1-alpha-hydroxylase, on obtient la 1,25-dihydroxyvitamine D, qui est la forme bioactive, qui est la calcitriole. Et donc, ces enzymes-là, en réalité, sont codées par des gènes. Il y a des gènes, en fait, qui produisent ces enzymes. Et ces gènes-là peuvent être mutés. Et les mutations sont relativement fréquentes. Là, si on prend le cas de l'enzyme hépatique, la 25-hydroxylase, on est à quelque chose comme 20% de prévalence de mutation. 20%. On a deux SNP qui sont des polymorphismes comme ça, sans rentrer dans les détails, mais des sortes de mutations génétiques, des variations génétiques qui sont fréquentes à autour de 20% dans la population générale. La prévalence, c'est 20%. Et puis pour la 1-alpha-hydroxylase, donc l'enzyme rénale, c'est moins fréquent, mais ça existe aussi. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le récepteur de la vitamine D, puisqu'on avait dit que c'est une hormone. Pourquoi on dit que c'est une hormone? Parce que ça fonctionne comme une hormone. Et une hormone fonctionne avec un récepteur. Ça fonctionne toujours avec un récepteur, un ou plusieurs récepteurs. Là, en l'occurrence, pour la vitamine D, vous avez le récepteur VDR pour récepteur de la vitamine D. Et donc, ce récepteur VDR, il est codé par un gène aussi. Et il y a aussi des mutations, et en fonction des types de mutations, ça va de 10 à 20% de prévalence de mutations. Il y a aussi la protéine qui transporte la vitamine D, également. Protéine également codée par un gène, la VDBP. Celui-là peut présenter aussi des mutations. Également, il y en a deux qui sont assez fréquentes, 10 à 15% de la population. Donc, ces mutations-là vont soit diminuer le transport de la vitamine D, donc moins d'effet de la vitamine D, soit diminuer la conversion de la cholécalciférol en sa forme bioactive, donc moins de vitamine D bioactive, donc moins d'effet de la vitamine D, soit diminuer l'effet de la vitamine D directement en diminuant l'activité du récepteur de la vitamine D. En fait, toutes les fonctions de la vitamine D qu'on connaît, toutes sans aucune exception, que ce soit sur le métabolisme phosphocalcique, sur l'immunité au sens large du terme, soit anti-infectieuse, immunomodulatrice, l'effet sur l'inflammation, l'effet sur le cancer, les effets sur la sérotonine, les effets sur le système digestif, les effets sur la modulation du cycle cellulaire. Tout cela fonctionne avec le récepteur de la vitamine D. C'est lorsque le récepteur est activé par la vitamine D, de VDR, donc, qu'on obtient tous ces effets. Donc, si le récepteur fonctionne moins bien, l'effet de la vitamine D est moindre. Ce qui nous ramène à un sujet majeur, qui est en fait cette histoire d'utiliser les dosages sanguins ou le dosage sanguin de 25-hydroxyvitamine D comme la valeur de référence pour gérer les problèmes qui sont liés à la vitamine D. Parce que la 25-hydroxyvitamine D, c'est une forme précurseur, c'est pas la vitamine D bioactive. C'est celle qui a été hydroxylée dans le foie, première hydroxylation. Ce qu'on avait dit, ça doit être hydroxylé dans le rein deuxième fois pour obtenir la forme bioactive et ensuite le récepteur doit fonctionner correctement. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est 30 nanogrammes par millilitre là, qui constitue la limite inférieure actuellement. Eh bien, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants pour un tas de raisons, parmi lesquelles celles que je viens d'expliquer là. C'est-à-dire en rapport avec le fait que ce qu'on dose, ce n'est pas la forme bioactive et il peut y avoir des mutations qui viennent diminuer l'effet de la vitamine D. Et d'autres raisons, par exemple, c'est le fait qu'on a augmenté notre besoin, on a considérablement augmenté notre besoin en vitamine D depuis plusieurs dizaines d'années à cause du mode de vie sédentaire, à cause de sédentarité ici, ne veut pas uniquement dire le manque d'activité physique, c'est tout le cortège de problématiques qui vont avec, l'alimentation qui va avec, le stress qui va avec, la pollution qui va avec, les troubles du sommeil qui vont avec, etc. Et donc, toutes ces problématiques-là augmentent considérablement le besoin en vitamine D. On n'est plus sur les 400 unités. Maintenant, c'est les 4000 unités, plutôt. Et dans certains cas, plus que ça. Donc, cette problématique considérable qui, pour moi, actuellement, c'est un problème de santé publique, la vitamine D. Il y a les oméga-3, carence massive dans la population, aussi par augmentation des besoins et d'autres problématiques aussi d'ordre génétique, et aussi la vitamine D. C'est un phénomène mondial. C'est extrêmement important d'insister sur ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout ça c'est absurde en fait, c'est des discussions qui n'ont aucun sens. La vitamine D, perturbateur endocrinien, on en produit nous-mêmes. Comment voulez-vous que ça soit un perturbateur endocrinien?
Très intéressant et franchement, je pense qu'on va diffuser cet extrait là pour remettre un petit peu cette importance de la vitamine D. Là, quand on voit les dosages préconisés et ce que vous dites là sur les 4000 unités à jour, bon, et encore du. Et vous l'avez dit, donc j'ai même pas besoin d'appeler Pollux. Vous n'avez pas encore. Vous ne connaissez pas encore Pollux, peut-être, Amine, mais là vous avez été précautionneux. Vous le connaissez, Pollux?
Non.
Non, eh ben Pollux, c'est celui qui intervient. Il est là, regardez.
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Voilà, c'est celui que vous allez entendre si à un moment donné vous dites quelque chose qui nécessite d'être encadré par ce petit rappel, mais vous l'avez très bien dit, là on sur ces choses-là, c'est suivi par un médecin qui connaît un peu la micronutrition, donc vous l'avez dit, mais c'est vrai que la vitamine D c'est fou, et maintenant je vous rejoins complètement quand vous me disiez au début d'émission, je peux en parler pendant des heures, parce que là il y a encore des choses à dire, et donc on va continuer la semaine prochaine et on reviendra sur ça, pourquoi elle est autant importante, c'est pas seulement sur le tissu osseux, enfin pas seulement sur, vous êtes d'accord, hein, il y a plein d'autres actions de la vitamine D, on y reviendra la semaine prochaine, on prendra le temps qu'il faudra. Si vous avez des questions d'ailleurs à nous poser ou des réflexions à nous partager, rendez-vous sur le site de nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts, et non, n'importe quoi dans la partie formulaire de contact. Par contre sur la partie médias et podcasts, c'est parce qu'on va mettre le podcast de cette émission tout de suite en ligne si vous venez d'arriver sur le live. Merci beaucoup Amine.
Merci Fabrice, à bientôt.
On se retrouve la semaine prochaine, donc reste à l'écoute sur Nutri Radio parce que c'est le retour de la musique, et si vous êtes en podcast, eh bien écoutez d'autres émissions.
Santé 360, Amine Gasmi sur Nutri Radio.